Science en question par Étienne Klein. Science et philosophie, quel lien ? D'un côté, il y a les scientifiques qui isolent des phénomènes, les réduisent, théorisent à leur sujet, calculent, simulent, expérimentent, manipulent, afin de rendre intelligible ce qu'il n'est pas encore. De l'autre, il y a les philosophes qui, quant à eux, sont d'une espèce d'absence. À grand renfort de textes de référence, ils scrutent un monde impalpable d'idées polémiques, toujours discutables, poursuivant ainsi une quête qui se réactive sans cesse sous l'empire de quelque éros infatigable. Quand on les présente ainsi, il semble naturel et conforme à la raison de séparer et de tenir à bonne distance l'une de l'autre ces deux manières différentes d'interroger le réel, le monde, l'existence. Toutefois, dans la vraie vie des idées, les sciences et la philosophie n'ont-elles pas des points de contact ? Et n'y a-t-il pas des zones où elles s'entremêlent carrément ? Lorsqu'on provoque des rencontres entre les sciences et la philosophie, celles-ci apportent-elles ce que Wittgenstein appelait la paix dans les pensées ? Ou bien font-elles apparaître des conflits ou des différences statutaires ? Et font-elles surgir des malentendus ou des quiproquos ? Pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Francis Wolff. Bonjour.
Bonjour Étienne Klein.
Vous êtes philosophe, professeur émérite à l'École normale supérieure. Donc on peut être à la fois normal et supérieur, je note la contradiction.
Je vous expliquerai, Étienne.
Oui, vous publiez un livre que j'ai trouvé fascinant, remarquable, un livre à 360 degrés qui s'intitule « Le monde à la première personne », entretien avec André Comte-Sponville qui en fait se contente de vous poser des questions et de réagir ou de commenter certains de vos propos.
Oui, c'est vrai, ce n'est pas des entretiens au sens strict, c'est un exposé personnel aidé avec la collaboration de mon ami André Comte-Sponville.
Alors avant d'aborder la question du jour, je voulais vous faire réagir à une émission que j'ai enregistrée il y a deux semaines, le 20 février 2021. Je recevais Maya Rouchkova pour parler d'un sujet qui était ne peut-on penser que dans sa langue ? Et vous racontez dans le livre que vous avez enseigné au Brésil, vous êtes arrivé là-bas sans parler le portugais. Et vous avez enseigné la philosophie dans une langue qui n'était pas votre langue maternelle. Et vous écrivez ceci. On se sent, quand on doit mener un tel exercice, d'abord démuni et pour ainsi dire bête. Car la philosophie exige un vocabulaire précis et une syntaxe nuancée. Mais petit à petit, à mesure qu'on se débarrasse des réflexes de sa langue maternelle et qu'on commence à penser entre deux langues, on apprend à mesurer ce qui, dans les mots dont on use, est étranger au concept et les troubles. Ça sonne bien en français, oui, mais ça n'a pas de sens en portugais. On se pose donc la question, est-ce que ça mérite d'être pensé ? Et vous répondez, peut-être.
Oui, je réponds peut-être, parce qu'il faut à la fois concilier les exigences universelles de toutes les langues humaines. Il y a dans toutes les langues humaines des universaux, d'ailleurs, qui m'ont intéressé, et la spécificité de chaque expression linguistique qui se réalise dans une langue. Alors, face à cela, on a deux attitudes théoriques qui sont l'une et l'autre fausses. Celle qui consiste à dire tout ce qui est pensable dans une langue est pensable dans une autre. Voilà. Et il y a l'autre qui enferme chaque langue dans son univers fermé et qui prétend que c'est une thèse qu'on trouve même chez Heidegger à propos de l'allemand ou du grec. Voilà, il y a des trésors propres à une langue que les autres ne peuvent pas comprendre. Alors en réalité, quand on fait l'expérience, on s'aperçoit que la réalité est entre les deux et qu'on pense au fond mieux quand on n'arrive pas entièrement à penser dans sa propre langue et qu'on essaye de penser dans une autre, parce que alors à ce moment-là, la pensée est filtrée. La pensée est filtrée et il reste ce que l'on peut traduire, ce que l'on peut dire dans une langue. Et même si on recourt à des périphrases, il reste quelque chose d'universel quand on pense entre deux langues.
Mais quand vous enseignez la philosophie en portugais, est-ce que vous commenciez par penser en français puis traduisiez, ou bien est-ce que vous pensiez à la fin directement en portugais ?
Eh bien, premièrement, les choses ont évolué, évidemment, en arrivant progressivement. Au début, j'écrivais mes cours en français et j'essayais de me les dire dans ma tête en portugais en ayant le texte en français sous les yeux. C'est d'ailleurs ce que faisait mon prédécesseur Gérard Lebrun. Et quand il y avait une expression qui me posait un problème, je la cherchais, je cherchais un équivalent, je cherchais une image qui puisse la rendre. Mais progressivement, j'ai évidemment appris à penser et peut-être même à rêver dans la langue étrangère. Et à ce moment-là, réellement, on pense entre deux langues.
Alors venons-en à notre sujet, à votre livre, Francis Wolff, Le Monde à la première personne. D'où vient l'idée de ce livre qui a un statut un peu particulier ? Vous parlez de votre vie, de votre parcours philosophique, de vos idées, de grandes questions métaphysiques, de la musique,
oui, alors,
de vos parents, de votre histoire.
Je parle de tout ça pour, disons que ce livre, je l'ai conçu comme, d'une certaine manière, l'atelier du philosophe. J'ai voulu faire pénétrer le public, et le public le plus large, dans ce qui a été pour moi la construction d'une philosophie, d'une pensée, au travers de quelque chose qui était à la fois à la première personne, comme le dit le titre, donc il y a des aspects biographiques, et qui en même temps avait cette ambition de dire tout ce que j'avais tenté de penser dans des livres extrêmement différents et hétérogènes. Je me suis aperçu, et d'ailleurs c'est ce que m'a fait faire remarquer mon éditrice, que j'ai écrit sur des sujets extrêmement différents, sur la musique, pourquoi la musique, sur l'humanité, notre humanité, plaidoyer pour l'universel, j'ai écrit sur l'amour, il n'y a pas d'amour parfait, j'ai écrit sur la métaphysique, le langage, dire le monde, etc. Et pour moi, tout cela constituait une unité. Pour moi, tout cela, ça avait un sens unique. Et j'étais porté par la même pensée, si je puis dire. Et c'est ce que je me suis aperçu échappait totalement à mes publics. Il y a des gens qui me disaient « Ah, j'ai lu votre livre sur la musique, c'est formidable, etc. » Ah bon, mais... Et alors pour moi, le livre sur la musique n'est qu'un prolongement, mais avec toute l'acuité qu'il peut y avoir lorsqu'on parle d'un thème précis, c'est-à-dire non pas de la musique en général comme ça, mais en s'appuyant sur des musiques particulières. Mais pour moi, ça n'était que le prolongement de mes travaux sur le langage ou sur la métaphysique.
Vous écrivez que vous avez su que vous vouliez devenir philosophe avant même de savoir ce qu'est vraiment la philosophie. Alors comment ça s'est passé, à quel âge, et qu'est-ce qui a provoqué cette sorte de bascule qui a fait devenir philosophe avec la certitude que vous ne pouviez pas faire autre chose?
Eh bien, je crois que je fais remonter ça à une expérience qui n'a pas été tout à fait agréable, une expérience, disons, je devais avoir 13-14 ans, crise pubertaire, angoisse métaphysico-religieuse, etc. Et puis, des moments... saisi par une sorte d'effroi où je me suis dit, alors est-ce que je frôlais la folie à ce moment-là? Peut-être. Et si tout ce qui m'entourait, tout ce que je vois, tout ce que je sens, tout ce que je touche, ça n'était peut-être qu'un décor? Et je me suis mis à vivre pendant quelques temps dans ce fantasme absolument effrayant qu'au fond, peut-être que moi seul, j'existe et que tout le reste n'est qu'un décor. Et puis je me suis dit, mais alors, si c'est un décor, si c'est quand je touche quelque chose, j'ai l'impression que de toucher quelque chose, il y a peut-être un projectionniste derrière ce cinéma en trois dimensions. Voilà, alors ça c'était des angoisses. Je m'en suis ouvert d'ailleurs à un de mes copains à l'époque qui a trouvé les réflexions un peu bizarres et puis qui, bon, oui, peut-être, ok, et puis on est passé à autre chose. Et puis, je suis tombé sur un petit livret de ma sœur qui était en terminale et qui s'appelait « Les méditations métaphysiques » en édition Larousse.
Un certain Descartes.
D'un certain René Descartes, en effet. Et je me suis mis à lire, évidemment, son comprendre sans doute la moitié des méditations métaphysiques. Mais je me suis aperçu que mes espèces d'angoisse un peu effrayante, un peu religieuse, un peu pataphysique, disons, elles avaient trouvé là une forme d'expression claire et distincte absolument extraordinaire, et que ce que je sentais, ce que j'éprouvais, ce que j'avais eu du mal à penser était là, écrit d'une façon absolument extraordinaire. Et je me suis dit, voilà, c'est ça qu'il faut faire, c'est-à-dire essayer de donner une forme absolument claire et surtout absolument rationnelle à une expérience à la première personne.
René Descartes a agi sur vous comme une tendre caresse.
C'est si son, on peut dire.
C'est son anagramme. Alors attendez, on va quand même venir à un autre sujet, les rapports entre science et philosophie. Je sais pas très bien par quoi commencer. Ça me rappelle l'histoire de cet automobiliste complètement perdu dans la campagne irlandaise qui finit par croiser un promeneur auquel il demande « Savez-vous, monsieur, comment je pourrais aller à Dublin ?» Et l'homme de lui répondre « Oui, mais ce n'est pas du tout d'ici qu'il faut partir. » Alors j'ai choisi de partir d'une citation d'un philosophe que vous connaissez sûrement, José Ortega y Gasset, qui oppose le philosophe et le scientifique de la façon suivante. Il dit « La philosophie n'a pas besoin, comme la science, de collaboration. Elle ne consiste pas à dire à autrui, mais à se dire à soi-même. Elle n'est pas une activité de la société, mais un travail solitaire. Le philosophe est une sorte de Robinson. Et ce qui est caractéristique, c'est que le Robinson philosophique ne vit pas sur une île déserte, mais dans une île désertée, dont les habitants sont tous morts. » Est-ce que vous êtes d'accord avec cette ligne de séparation entre la science, les sciences et la philosophie ?
Alors dire que la philosophie est un exercice solitaire, je ne peux que la partager en partie, puisque j'ai tenté de dire le monde à la première personne, mais je me suis aidé quand même de quelqu'un, André Gonsponville, qui me pose les questions. Donc on a toujours besoin d'un autre.
Et puis vous racontez beaucoup de rencontres qui ont été déterminantes.
Exactement, je raconte un certain nombre de rencontres. Et pour moi, j'allais dire, il faut partir de ce qu'il y a de commun, science et philosophie, avant de comprendre ou d'essayer de trouver leurs différences. Pour moi, ce sont à la fois les deux plus grandes et importantes expériences de rationalité humaine et qui, les unes et les autres, s'appuient et essaient de rendre compte de l'expérience. Raison et expérience.
Okay. Ben vous dites philosopher, c'est introduire le maximum de rationalité dans l'expérience. Mais je pourrais dire la même chose d'un physicien.
Mais exactement, et c'est là où j'introduis ma différence entre les deux types de rationalité et les deux types d'expérience. Rationalité philosophique est pour moi une rationalité dialogique. C'est-à-dire argumentative. C'est-à-dire, c'est ce qui se passe lorsque j'essaye d'argumenter pour défendre telle ou telle position. C'est ce que j'appelle la raison dialogique, dont j'ai fait un des concepts centraux de mon expérience philosophique. Alors ça, c'est la rationalité philosophique. Et la rationalité scientifique, c'est essentiellement la rationalité démonstrative. Et les deux sont tout à fait différents. C'est une rationalité qui est logique, qui infère et qui même peut prendre, depuis le XVIIe siècle, notamment pour la physique, une forme mathématique. Ça n'est pas du tout le cas de la philosophie, qui prend essentiellement cette forme argumentative. Quant à l'expérience, la grande différence, c'est que la philosophie essaie de rendre compte de l'ensemble des variétés d'expériences humaines, de ce que nous, quand nous ouvrons les yeux, nous pensons, nous voyons, nous expérimentons du monde et nous expérimentons en commun. Et donc, tout cela, c'est ce dans quoi le philosophe doit introduire le maximum de rationalité. Quant à l'expérience scientifique, c'est un autre sens du mot expérience, puisque la plupart du temps, ce sont des expériences provoquées. Le scientifique va à la nature armé de ces questions. Il met parfois même la nature à la torture pour en tirer quelque chose avec ses propres questions. Donc, ce sont deux formes. Ça correspond aussi à deux mots en allemand, expérience et expérimentation, disons, voilà. Donc, à partir de ce rapport entre rationalité et expérience, les deux voies possibles. Mais j'ajoute quelque chose d'important concernant en tout cas la philosophie, c'est qu'il faut jamais abdiquer ni l'une ni l'autre. Et c'est-à-dire que il faut rendre compte de l'expérience humaine dans toute sa finesse et précision. Je prends deux exemples. Deux travaux que j'ai pu faire, un sur la musique et un travail sur la musique, bien entendu, essayer de rendre compte rationnellement de l'expérience que nous faisons de la musique, mais de toutes les musiques, aussi bien des musiques pygmées que du rock, que de la musique classique, que de l'opéra, etc. Donc la variété de l'expérience est essentielle. Et la rationalité, c'est essayer de rendre compte de toutes les questions que cette expérience peut poser des questions. Qu'est-ce que la musique? Pourquoi les hommes font de la musique? Pourquoi partout, oui, dans toutes les cultures, il y a de la musique? Est-ce que, et pourquoi ça nous émeut? Et pourquoi ça nous fait danser? Voilà. Ça, c'est introduire la rationalité.
Mais comment est-ce qu'on pondère les choses, Francis Wolff? Quel est le poids qu'on va donner à la rationalité? Quel est le poids qu'on va donner à l'expérience? Comment, et là je vous cite, garder l'équilibre entre la chair de l'expérience, qui peut être envahissante, qui peut être trompeuse, et puis l'ossature du concept?
Eh bien, je crois que la réponse n'est jamais absolue ni définitive.
Parce qu'on peut divaguer, on peut devenir un idéologue, on peut devenir un gourou.
Bien sûr.
On peut devenir un sophiste.
Bien sûr, on peut devenir tout ça. Et il y a des manières aussi de mimer la rationalité. Après tout, le paranoïaque ne pêche pas par une absence de rationalité, mais par un excès de rationalité. De même, le complotiste. Donc, bien entendu, c'est un aller-retour permanent. Et d'un côté, la rationalité doit être la plus rigoureuse possible. Et l'expérience doit être la plus riche possible. La rationalité nous donne une certaine universalité à l'expérience humaine, et l'expérience nous donne la plus grande diversité. On oppose souvent l'universel et le divers. Je crois que c'est absurde. L'universel est la condition de l'existence et de la coexistence de la diversité. Et c'en est vrai aussi bien en politique que dans la vie sociale. La laïcité est un universel qui permet la coexistence des religions, et la rationalité philosophique doit permettre la coexistence du maximum d'expériences. L'autre exemple que je prenais, c'était celui de l'amour. J'ai tenté de trouver des universaux à propos de l'amour et de la définir d'une façon la plus rigoureuse possible, alors même qu'il y a autant de façons d'aimer qu'il y a de personnes, qu'il y a des cultures d'amour extrêmement différentes, des interdits pesant sur l'amour, la sexualité, le désir, qui sont extrêmement variables. Est-ce qu'il y a des universaux? La réponse est oui, et ça, c'est le travail de la raison.
Et vous dites, c'est une phrase qui m'a surpris, que la philosophie en elle-même est aussi éloignée de la littérature que de la science. Donc il y a une sorte de distance, qui est la même dans les deux exemples que vous avez choisis. Comment est-ce qu'elle se mesure, cette distance?
Eh bien, ce que je vais chercher dans la littérature, c'est aussi une expérience, mais c'est une expérience qui, elle, est la plus singulière possible. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse lorsque je lis un roman, quand je lis un grand écrivain, Proust, c'est de retrouver au travers de ces phrases quelque chose que je ne savais même pas que j'avais éprouvé, mais parce qu'il a su trouver le tour de langue pour le dire, eh bien, je trouve qu'il y a de l'universel au travers de quelque chose que je ne savais même pas être extrêmement singulier. C'est donc tout à fait le contraire, c'est l'extraordinaire singularité d'une expérience unique et voilà de l'itinéraire d'une âme, et ça peut être un itinéraire spirituel comme un itinéraire géographique, qui fait le trésor de la littérature par différence avec la philosophie, qui ne doit jamais abdiquer le concept.
Alors, on sait que les premiers philosophes, enfin si tant est que cette expression ait un sens, je pense notamment aux philosophes grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ, vous dites qu'ils étaient philosophes et savants, les deux choses n'étaient pas distinguables. Qu'est-ce qui a provoqué la séparation que nous constatons aujourd'hui? C'est l'avènement de la science moderne?
Alors, c'est une question évidemment très difficile qui nous entraînerait très loin, mais il y a évidemment, disons, le fait massif, c'est qu'une science ne peut progresser qu'en se spécialisant et en se diversifiant au maximum. Il n'est plus possible aujourd'hui, je crois, je vous pose la question, Étienne Klein, qu'un un physicien, aujourd'hui, sache toute la physique. Ça n'est, je crois, pas possible. Il n'y a pas de mathématicien qui sache toute la mathématique. Au XVIIe siècle, il était possible, je crois, pour un savant européen, d'avoir une science, disons, universelle. Donc ça, c'est quelque chose qui a eu son importance historique, ainsi que la mathématisation, d'un côté, le progrès de l'expérimentation dû au développement des techniques, qui font que il faut se spécialiser. Il y a une deuxième raison, je crois, qui est importante, c'est que par ailleurs, au fur et à mesure, la science s'est réfugiée sur la philosophie s'est réfugiée ou a cru qu'elle devait se réfugier sur des territoires de plus en plus étroits parce qu'elle s'est sentie colonisée par les sciences. C'est-à-dire que longtemps, la science s'intéressait à l'univers, mais la philosophie disait « Ah ben il me reste la vie ». Et puis il y a eu la biologie, et puis la biologie évolutionniste, la biologie moléculaire, tout cela qui a fait « Ah ben non, voilà, il me reste la conscience ». Mais aujourd'hui, on sait bien que la conscience est l'objet des neurosciences. Alors qu'est-ce qui reste à la philosophie ? Soit il reste ce qui arrive parfois du bavardage, soit il reste, pour moi, la différence essentielle. Pour moi, je le répète, la différence essentielle, c'est que la science et la philosophie n'ont au fond pas le même rapport à l'ensemble, à un ensemble que pour la philosophie, j'appelle le monde, et que pour la science, j'appelle la réalité.
Alors, on va y revenir, mais ça veut dire qu'on doit philosopher au-delà de ce qu'on sait.
On doit philosopher au-delà et en deçà de ce qu'on sait. Les deux. Au-delà de ce qu'on sait, bien évidemment, parce que la question de l'unité du savoir, la question du rapport entre les branches du savoir, n'appartiennent pas à un savoir particulier, mais appartiennent à une interrogation d'un autre ordre qui suppose le recul sur le savoir et qui est un recul philosophique. Et en deçà du savoir, parce qu'il faut toujours se demander, mais au fond, sur quoi ça repose ? Quelle expérience première humaine est à la base de ce qui constitue le savoir ou les théories scientifiques.
Alors vous avez dit à l'instant, Francis Wolff, que la philosophie s'est sentie colonisée par la science, par les sciences. Alors sans parler de colonisation, est-ce qu'on ne peut pas reconnaître, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que parfois l'activité des scientifiques, des physiciens par exemple, peut à l'occasion produire des résultats décisifs, tranchants, qui modifie les termes en lesquels certaines questions philosophiques se posent, par exemple à propos de l'espace, du temps, du déterminisme, de la causalité, de l'objectivité. Est-ce qu'on peut parler du réel, par exemple, sans tenir compte des contraintes qu'impose la mécanique quantique ? Ça correspond à ce que deux des pionniers de la physique quantique, deux Français qui s'appelaient London et Bauer, appelaient des découvertes philosophiques négatives. C'est-à-dire, c'est pas des découvertes qui viennent dire aux philosophes ce qu'ils doivent penser, mais elles viennent contraindre l'ensemble des réponses philosophiques qu'ils peuvent apporter à des questions philosophiques.
Je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, Étienne Klein. Je n'ai jamais conçu la philosophie comme étant en rivalité avec les sciences. Et je considère, je vais même aller jusqu'à dire, je considère, si je veux savoir ce qu'il y a en réalité, je n'ai qu'un moyen rationnel, qui sont les théories scientifiques. Il n'y a pas d'autre issue. Bien sûr, il y a des systèmes de construction métaphysique magnifiques. Je peux adhérer à tel ou tel grand mythe, à la Bible, à tout ce qu'on veut, qui sont aussi des constructions qui essayent de répondre à la question « qu'est-ce qui est réel ?», etc. Mais si je me pose la question « comment ?» connaître tel ou tel aspect de la réalité, il n'y a pas d'autre réponse que les théories scientifiques. Ça, c'est ce que j'appelle la réalité. Ce que j'appelle le monde, c'est tout à fait différent. Et c'est l'objet, entre autres, de la philosophie, du moins de la philosophie telle que je la conçois. Le monde, je le définis comme un ordre total et commun. Un ordre, ça veut dire déjà que le monde, quand j'ouvre les yeux, le matin, je retrouve le monde tel que je l'ai quitté la veille. C'est la même chose. Il n'est pas contradictoire, il est cohérent. Les voitures ne se mettent pas à voler. Il est réglé par quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est le principe de contradiction. Une chose ne peut jamais être en même temps le contraire de ce qu'elle est. Alors, ce principe de contradiction, il fait que le monde m'apparaît comme un ordre. Alors, un ordre total, j'imagine que s'il y a quelque chose dans ma vie passée qui appartient donc au passé, je la raccorde automatiquement, cette chose, au présent. Il ne peut pas y avoir de trou dans le monde, ni de trou dans le temps, ni de trou dans l'espace. Un ordre donc total. Je conçois le monde comme une totalité. Et commun, parce qu'il nous est commun. Cette bouteille, nous pouvons en parler, elle nous est commun, elle est devant nous, Étienne. Ce micro, il nous est commun. Vous et moi, nous appartenons au monde, nous sommes au monde, nous sommes dans le monde. Ça, c'est l'ordre total et commun. Or, le problème, c'est que ça ne me permet pas de dire ce qu'il y a en réalité. Ça, c'est là. C'est le gros problème. Le monde, ça n'est pas le réel, car après tout, au fond, je sais bien que, d'une certaine manière, cette eau, qui m'apparaît comme un liquide, etc., c'est H2O, c'est ça qu'elle est en réalité. En réalité. Alors, si je me tourne maintenant du côté des sciences, ben les sciences, elles vont chercher à me dire ce qui est réel. Ça n'est pas des anges, ça n'est pas des archanges, mais c'est par exemple la composition de la matière, c'est par exemple les galaxies, c'est par exemple l'ADN, etc. Mais tout cela, est-ce que ça fait un ordre total et commun ? Pas du tout. Et la preuve, c'est que les deux plus grandes, et je m'adresse à vous avec modestie, les deux plus grandes théories les plus inclusives en physique, par exemple, qui est la science fondamentale, la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale, elles ne forment pas un tout. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'on s'efforce toujours, et peut-être s'efforcera-t-on longtemps, de les accorder, de trouver une théorie unifiante. Mais pourquoi cherche-t-on une théorie unifiante ? Parce que l'on se représente le réel comme un monde, c'est-à-dire comme le rapport que nous avons avec tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire un ordre total.
Ça veut dire qu'on voudrait que le réel soit aussi, enfin ce que vous appelez la réalité, devienne aussi cohérent que le monde.
Bien sûr, c'est ça qui est, c'est le moteur de l'histoire des sciences. Le moteur d'histoire des sciences, il est paradoxal parce qu'il invite en permanence à la diversité, à la diversification, à la spécialisation, à la spécification des disciplines et donc des théories. Et en même temps, à chaque instant, on essaye de réunifier, on essaie de montrer que telle théorie n'est en fait que le modèle de celle-là, que celle-ci n'est qu'un cas particulier de celle-là. Et par conséquent, cette tentative de réunification permanente, elle nous montre que les scientifiques ont bien l'intuition que le réel ne devrait être que comme un monde, c'est-à-dire comme nous nous représentons ce rapport que nous avons collectivement avec tout ce qui nous entoure.
Alors ça me donne l'occasion, puisque vous parlez de théorie du tout, qui est en effet un terme qu'on emploie parfois en physique, avec l'espoir qu'on pourrait trouver une théorie unificatrice de la physique quantique et de la relativité générale. Il y a un physicien qui s'appelle Wolfgang Pauli, un physicien qui est l'un des pères fondateurs de la physique quantique, qui était connu pour être très caustique, et son ami Paul Ehrenfest l'appelait d'ailleurs le fouet de Dieu. Oui. Il y a une blague chez les physiciens, et je voudrais avoir votre commentaire sur cette blague. Pauli est mort le 15 décembre 1958 à Zurich d'un cancer du pancréas et il semblerait, c'est ce qu'on raconte en tout cas, qu'il a été accueilli au paradis par Dieu en personne. Et Dieu lui dit, en l'accueillant, « Pauli, tu as été un brave homme et un très grand physicien, qu'est-ce qui te ferait plaisir ?» Et Pauli répond, « J'aimerais bien connaître le secret de l'univers, l'équation ultime, la théorie du tout, celle qui unifie toutes les forces. » Et que j'ai cherché en vain toute ma vie. Facile, lui répond Dieu, qui le conduit près d'un tableau noir sur lequel il écrit à la craie trois longues équations, puis se retourne vers Pauli d'un air satisfait et lui dit « Voilà ». Pauli regarde les équations en portant sa main au menton, hoche la tête et lâche « Stupide ». Alors, qu'est-ce que vous avez envie de... Parce que vous dites dans le livre, une théorie du tout ne serait pas une théorie de tout, et ce serait même pas du tout une théorie.
Exactement. Une théorie du tout ne serait pas du tout une théorie. Eh bien, je veux dire que, en physicien, ce que vous appelez une théorie du tout, c'est une théorie qui engloberait les deux théories dominantes aujourd'hui, qui sont, on l'a dit, la mécanique quantique et la théorie de la relativité générale. Mais est-ce que cette théorie serait une théorie du tout ? Ce serait une théorie peut-être de tout l'univers physique. Mais est-ce que ça donnerait une réponse à la question de Schrödinger, qu'est-ce que la vie ? Je ne crois pas. Est-ce que ça m'expliquerait l'évolution des espèces, c'est-à-dire la théorie darwinienne, qui est une grande théorie ? Je ne crois pas. Je ne crois pas que l'équation divine présentée par Dieu à Pauli donnerait la réponse à, je ne dis pas à toutes les questions que nous nous posons, c'est évident, mais surtout à toutes les théories scientifiques, qu'elles soient celles de la biologie, qu'elles soient celles de la psychologie. Est-ce qu'elles vont me donner une réponse aux questions que se posent les sciences sociales sur le rapport entre les classes sociales, une théorie de l'histoire, etc.
Bien et surtout la question, c'est vrai, est-ce qu'on pourrait reconnaître une théorie du tout parmi toutes celles qui seraient candidates?
Eh bien, une théorie du tout parmi toutes celles qui seraient candidates, ça s'appellerait tout simplement une idéologie.
Ou une conjecture.
Oui, une conjecture, mais si vous voulez, ce en quoi je vous ai lu aussi, Étienne Klein, et je sais bien que vous pensez par exemple, les complotistes, eux, n'ont aucun mal à avoir une théorie du tout. Hein. Tout s'explique, tout a du sens. Derrière n'importe quelle manifestation la plus banale, il y a une main cachée, il y a un sens caché, et tout ça est simple. C'est un complot qui vient, alors je ne sais pas quoi, des juifs, des francs-maçons, des musulmans, etc.
Bill Gates,
par exemple.
Alors, vous avez fort bien expliqué, en tout cas ça m'a paru très clair, Francis Vol, la distinction que vous faites entre monde et réalité. Mais est-ce que vous pouvez m'expliquer en quoi cette distinction qui est fondamentale pour vous s'éclaire ou s'appuie sur votre credo qui est « nous ne pouvons dire que ce que nous pouvons dire ». Phrase oui. Que, il me semble, j'aurais pu dire à votre place.
Oui, tout à fait, vous avez raison, c'est une lapalissade absurde. Je m'en moque moi-même. On peut déjà l'atténuer un peu en disant nous ne pouvons dire que ce que nous pouvons dire. Voilà, donc je ne sais pas si c'est plus clair.
Vous l'avez dit.
Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie que, disons-le d'une façon simple pour l'instant, et après il faudra nuancer, le monde est structuré comme un langage. Le monde est structuré par le langage, attention, pas la réalité, pas l'univers que j'ai essayé d'esquisser, c'est-à-dire la manière dont nous pensons le monde est structurée par le fait que nous avons besoin, pour parler, de désigner des objets. Par exemple, évidemment, d'un point de vue physique, cet objet-là est un quasi-objet, n'est-ce pas? Cet objet-là, je suis en train de montrer,
une bouteille d'eau.
On n'est pas à la télé, une bouteille d'eau. Mais évidemment, nous en avons besoin pour nous entendre, pour nous comprendre. Nous avons besoin d'objets, nous avons besoin de penser des événements, et nous avons besoin de penser des personnes. C'est en gros les trois grandes questions que j'ai distinguées, métaphysiques pour moi, c'est-à-dire la question « qu'est-ce que ?» Et nous avons besoin, pour nous repérer dans le monde, encore une fois, de pouvoir distinguer des objets dans l'espace, par exemple. Que nous voyons, que nous touchons. Nous avons besoin aussi de repérer des événements et de les comprendre, non plus en disant ce qu'ils sont, mais en disant pourquoi ils arrivent. Pourquoi ceci? Parce que cela. Pourquoi cela? Parce que cela, autre, etc. Et nous avons besoin aussi de personnes. Nous avons besoin de dire qui a fait ceci, qui a fait cela. Cette trilogie, elle est inscrite dans toutes les langues du monde. C'est la trilogie entre il nous faut des mots qui sont des noms pour désigner les choses, des verbes pour parler des événements et des pronoms personnels pour parler de vous et de moi. Eh bien, cela, c'est quelque chose qui est nécessaire à l'interlocution, c'est-à-dire à l'échange entre nous. Sans cette trilogie, nous ne pourrions parler de rien. Évidemment, encore une fois, je ne parle pas du réel, de la réalité, parce que l'ontologie, comme on dit, c'est-à-dire la manière dont on va réduire la réalité à ses éléments minimaux, dépend à chaque fois de telle ou telle théorie scientifique. Et ça n'est pas la même. Mais nous, en tout cas, dans le monde, nous avons besoin au moins de ces trois entités de base, de ces trois entités minimales. Très bien. Alors, à partir de ce moment-là, je dis que ce qui structure le monde, ce qui lui donne cet ordre, c'est qu'il est réglé par le principe de contradiction et par le fait qu'il y a des choses à qui il arrive des événements et dont nous pouvons parler comme de personnes. Alors, évidemment, cette trilogie, elle est extrêmement importante pour moi. Et quand je dis « nous ne pouvons dire que ce que nous pouvons dire », c'est-à-dire qu'il nous est extrêmement difficile de concevoir un monde dans lequel il n'y aurait pas des choses, dans lequel il n'y aurait pas des événements, ou dans lesquels il n'y aurait pas de personnes.
Ce ne serait pas un monde.
Ce ne serait pas ce que nous appelons le monde, mais peut-être que c'est réel, évidemment, parce que sous l'œil de la mécanique quantique, une personne, ça n'existe pas, comme une personne, évidemment. Sous l'œil de la théorie de la relativité restreinte, quand je dis avant, demain, etc., ces mots perdent en partie, une partie de leur sens. Et pourtant, le temps du monde, c'est-à-dire le temps que nous partageons, quand je dis il est déjà 16h35, il n'y a plus que 10 minutes d'émission, ce temps-là, il est bien réel, il appartient à notre monde, il nous est commun. Alors, quand je dis nous ne pouvons dire que ce que nous pouvons dire, cela signifie que le monde est limité et en même temps, il est structuré par la manière dont nécessairement nous pensons. Alors, je voudrais juste ajouter une petite chose. Je dis, il est nécessaire à notre langage. Je dis, on ne peut pas imaginer un monde sans choses, un monde sans événements. Et pourtant, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire, un monde sans choses. Ben, c'est très simple. Un monde dans lequel il n'y aurait que des événements. C'est très simple, c'est le monde de la musique. Dans le monde de la musique, quand vous entendez de la musique, vous entendez des successions d'événements qui vous semblent, en quelque sorte, déterminés les uns par les autres, mais vous n'avez pas besoin de choses, vous n'avez pas besoin de vous raccrocher à des choses. Un monde de choses sans événements, mais c'est très simple, c'est le monde de la peinture. Quand vous regardez une représentation, disons, classique, vous y voyez des représentations des choses auxquelles il n'arrive rien. Un paysage, une nature morte, il n'arrive rien. C'est instantané. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'événement, il n'y a pas de cause. Et par conséquent, les hommes ont besoin de vivre dans un monde structuré par le langage, avec des choses, des événements, des personnes. Mais dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations, ils ont inventé un moyen, des moyens de représenter un monde sans choses, en faisant de la musique, un monde sans événements, en faisant des images. Et vous allez me dire, et les personnes ? Ils ont inventé des récits dans toutes les cultures, dans toutes les civilisations. Et même chez tous les enfants, il y a ce besoin d'image, ce besoin de musique et ce besoin de récit pour répondre à la question « qui ?» qui est ma troisième question. Qui suis-je ? Qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Et donc ce « qui » structure le troisième universel humain qui est le récit.
Francis Wolff, c'est très clair. Maintenant, est-ce que le fait que la science, les sciences nous apprennent des choses sur ce que vous appelez la réalité doit rester indifférent à notre rapport au monde? Ou est-ce que notre rapport au monde doit essayer de se corriger, de se laisser influencer par les connaissances?
Bien sûr. Si je regarde le jour se lever le matin, je dis le jour se lève. C'est vrai. Et si quelqu'un me dit... Non, tu te trompes, le soleil se couche. Je me dis non, on peut montrer que le soleil se lève. En réalité...
Il se lève pas.
En réalité, il se lève pas. En réalité, j'ai appris à l'école que le système est géocentrique, n'est-ce pas ? Le système est héliocentrique et n'est pas géocentrique. Et donc, en fait, il ne se lève pas.
Mais n'empêche que vous, dans votre monde, vous voyez le soleil se lever.
Exactement. Notre monde, et d'ailleurs nous sommes bien d'accord qu'il est désormais 16h38.
Le temps passe.
Le temps passe, et nous pouvons nous mettre d'accord qu'il ne nous reste plus que 7 minutes d'émission. Ça, c'est indépendant de ce que me disent les sciences. Alors, est-ce que ça a de l'influence ? Bien évidemment, ça corrige. Est-ce que les sciences ont quand même une influence ? Bien entendu, elles permettent de corriger des illusions, c'est-à-dire la croyance que nous sommes au centre du monde. Elle permet, comme le disait Freud, d'humilier l'homme qui s'est cru longtemps au centre du monde, ou même au centre. Darwin a humilié l'homme en montrant qu'il n'était même pas au centre de la nature et de la vie. Et lui-même, peut-être, Freud a-t-il montré que l'homme n'est pas au centre lui-même. En tout cas, il permet de corriger beaucoup d'illusions, beaucoup de mythes, beaucoup de fausses croyances, peut-être avec moins de succès qu'on ne le souhaiterait, si l'on en juge par les reculs actuels des théories rationnelles au profit des théories les plus irrationnelles, mais bien entendu, ce que nous savons de la réalité devrait permettre de corriger les croyances ou les illusions que nous avons à propos du monde. Ça n'empêche que nous pensons dans un monde commun, un monde que je retrouve tous les matins et qui n'est plus celui dont j'ai rêvé la nuit, qui était mon monde et qui n'était pas du tout ordonné, qui était totalement contradictoire quand j'en rêve, qui n'était commun avec personne et qui n'était pas du tout total. Mais dès que je rencontre quelqu'un, je sais que nous sommes dans le même monde.
Francis Wolff, on a l'habitude de distinguer deux façons de faire de la philosophie, celle dite continentale, celle dite analytique, plutôt anglo-saxonne. Est-ce que cette philosophie dite analytique ne tente pas de mimer la science ?
Alors oui, c'est vrai dans ces procédures. Si vous voulez, on peut opposer les deux en disant que l'une est trop proche et l'autre est trop éloignée, si l'on veut. Les philosophes analytiques, en tout cas, les disciples des disciples, c'est-à-dire ceux qui fonctionnent à coup de en imitant les quelques grands philosophes analytiques, eh bien, c'est vrai qu'ils miment les procédures scientifiques, qui font des papers pour réfuter un autre paper, qui lui-même réfutait un autre paper, etc., etc. On pourrait renvoyer l'appareil, renvoyer le compliment à la philosophie continentale en disant que parfois, elle fait bon marché des découvertes ou des théories scientifiques, elle en est, elle, un peu trop éloignée.
Qu'est-ce que c'est que le style phénoménologique ? Ça sera ma dernière question, Francis Wolff.
Ah.
Vous en parlez longuement.
J'en parle longuement en disant que je m'en distingue. Le style phénoménologique, c'est un style qui, justement, est dérivé de quelqu'un qui, chez Husserl, voulait revenir aux choses mêmes et qui, progressivement, je trouve, s'en est éloigné et a privilégié uniquement le point de vue interne à la conscience. Donc, si vous voulez, moi j'essaie de me tenir à distance égale entre les philosophes de la conscience, qui pensent que tout le rapport que nous avons au monde est au fond interne, est un rapport que la conscience intentionnelle a vis-à-vis du monde. J'essaie de parler des choses, j'essaie de parler de ce qu'il y a objectivement entre nous, parce que je ne pense pas que la conscience, en tout cas la conscience subjective, soit la source de notre rapport au monde. Ce qui pour moi est la source de notre rapport au monde, c'est le dialogue qui nous est commun et que nous sommes en train d'avoir, par exemple.
Est-ce que Descartes, qui a été celui qui vous a fait voir la philosophie en premier, reste votre homme ?
Il est l'impression. Un de mes hommes, oui, bien sûr. Il est un de mes hommes. Je ne suis pas. Je pense qu'à une époque où cartésien est presque devenu une injure, cartésien voudrait dire trop rationnel. Cartésien, on impute à Descartes quasiment tous les jours. Vous ouvrez le journal, on vous dit ah depuis Descartes, hein, c'est à cause de Descartes la crise écologique, la baisse de la diversité. Il a voulu nous rendre maîtres et possesseurs de la nature. Il a surtout voulu fonder une médecine scientifique à une époque où on se contentait des diafoirus à chapeau pointu. Donc pour moi, Descartes, c'est à la fois un des plus grands philosophes et un des plus grands savants.
Merci Francis Wolff. J'ai plusieurs choses à dire. D'abord, je recommande la lecture de votre livre dont on n'a parlé que d'un petit bout, qui s'intitule « Le monde à la première personne ». J'avais une toute dernière question, c'est est-ce qu'il est prévu que vous chantiez à l'Olympia ?
Non, je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question.
Parce que c'est arrivé, ça va arriver à un ancien invité de l'émission qui s'appelle Rodolphe Burger, qui va se produire à l'Olympia le 13 décembre prochain dans le cadre de sa tournée qui s'intitule Environ. C'était donc Science en question par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Florent Bujon et à la réalisation Louise André.